Namasté. Yoga, passion et communauté. yoganamasté.ca. CKRL 89.1.
Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Bienvenue à cette première édition de l'année 2016, première édition avec laquelle je partage l'animation. Jean-Tiane Lafrance, bonsoir.
Allô, Audrey.
Alors, ce soir, c'est ta toute première avec nous, mais tu étais dans l'ombre de l'émission depuis déjà le début de la saison.
Oui, oui, exactement. Je me suis occupée du blog, d'animer la page Facebook et je vous ai suivi de loin. J'ai écouté toutes les émissions religieusement.
Oui, fait que tu étais notre première auditrice finalement.
Oui, votre auditrice la plus assidue.
Eh oui. Alors, c'est super. Donc, on va partager ensemble pour le reste de la saison le micro à l'animation. Donc, vous allez entendre deux voix, chers auditeurs, à chaque semaine probablement, ou peut-être quelques semaines, un petit congé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, on va être avec notre belle ribambelle de chroniqueurs et de chroniqueuses.
Oui!
Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécial, notre émission, parce que c'est assez tranquille, il faut le dire, en art visuel, mais ça va prendre son envol ce vendredi, plus particulièrement.
Oui, beaucoup de vernissages ce vendredi à Méduse. Tout Méduse inaugure des expositions ce vendredi et des vernissages également un peu partout dans la ville par la suite. Donc, pour cette première partie d'émission, on va se pencher un peu sur qu'est-ce qui se passe dans les arts visuels, qu'est-ce qui va commencer cette semaine et qu'est-ce qui va arriver également tout au long de la saison culturelle.
C'est ça, à l'hiver, au printemps même, donc on jase de ça ensemble, le public, toi, Jean-Tiane et moi, on se parle de tout ça, et également, en deuxième partie d'émission, on va avoir deux chroniques, parce que malgré tout, il y avait des expositions à l'affiche durant les fêtes. On va parler dans les alentours de 18h avec Julien Saint-Georges de l'exposition de Stéphane Pone à Materia.
Oui, du verre.
Oui, du verre, effectivement. Un grand maître verrier, dit-on. Et par la suite aussi, on va, tu vas nous parler, Jean-Tiane, de l'exposition Mutation, les métiers d'art au Québec depuis 1930, donc qui a cours en ce moment au Musée de l'Amérique francophone.
C'est exact.
Donc, une exposition collective, je pense, ici.
Oui, 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 qui regroupe une très, très grande diversité de pratiques.
Alors, on va s'intéresser à tout ça en deuxième partie d'émission. Donc, simplement, vous rappeler aussi que si vous voulez nous suivre, connaître tous les événements en art actuel à Québec, en art visuel surtout, le calendrier donc des événements, les émissions en balado-diffusion, mais aussi des billets. Hein, de temps à autre, nos collaborateurs publient des billets ou des informations suite aux émissions. On peut trouver ça où, ma chère Jean-Tiane? Hein?
Sur le blog de l'émission au www.laérospatialeckrl.wordpress.com.
Exact. Et aussi, si vous voulez avoir toutes les nouvelles plus actuelles, il y a la page Facebook également qu'on vous invite à aimer. Donc, on va aller faire une petite pause audio. Cette semaine, Simon Roy nous propose, à vrai dire, l'artiste, je ne sais pas s'il faut dire Docteur 800XL, à vrai dire, c'est comme ça que ça s'écrit, et c'est sur l'album Epifania, donc les extraits que nous allons entendre ce soir. Le premier s'intitule « Al centro del pejo ». « Alors, nous entamons notre survol de la rentrée culturelle en arts visuels, donc à Québec. Jean-Tiane, tu as le plaisir de commencer pour nous avec le lieu. Qu'est-ce qui se passe pour nous au lieu cet hiver et printemps 2016?
Donc, la saison est tout en pédagogie avec la saison, en fait, s'intitule « Glissement et dérapage pédagogique 100% performatif ». Donc, beaucoup de conférences et de workshops. Mais la saison commence, en fait, avec une exposition consacrée à Robert Filliou. Donc, Robert Filliou, tout en archives, qui va débuter le 17 janvier avec une conférence démonstration de Richard Martel à 14h. Donc, une exposition qui va présenter des lettres, des publications, des livres, des affiches, des documents qui sont tirés des archives du lieu consacrées à Robert Filliou, qui est l'instigateur de la journée de l'art, l'anniversaire de l'art.
Oui.
Donc, et le vernissage va être le 17 janvier, qui justement est cette fameuse journée de l'anniversaire de l'art, donc cette fête des arts visuels. Donc, lors de sa conférence, Richard Martel va présenter les grandes idées du travail de Filliou, des idées telles que le principe d'équivalence, le réseau éternel, la recherche sur l'origine. Donc, Robert Filliou, qui est un artiste français, né en 1926 et décédé en 1987, qui a été proche de Fluxus, qui a côtoyé, donc qui a découvert en fait les arts visuels dès 1959 en rencontrant Daniel Spoerry à Paris, auparavant économiste, ayant voyagé beaucoup. Il a mis beaucoup d'idées en place. Donc, un penseur des arts. Et lors de la conférence, il va également y avoir la présence de Pierre Tillman et Clive Robertson, qui ont côtoyé l'artiste et qui vont participer à la conférence. Donc, toute une panoplie de performances et de conférences qui vont avoir tout au long de la saison. Donc, je vous fais une petite liste ici. On va commencer par la performance et les enjeux de la documentation, qui va être une conférence de Georges Azaria et des invités, qui va être le 12 février à 16h. Le 19 février à 16h, il y a Barbara Clausen qui va présenter une conférence sur la performance au Canada. Ensuite, Boris Nielsloni, pardon, les SL et les LS, qui va présenter une conférence ainsi que des ateliers, donc des workshops, qui va se terminer par des performances. Donc, la conférence va être le 25 février, les workshops 26, 27 et 28 février et des performances de fin d'atelier le 4 mars. Ensuite, dans le cadre de l'échange Bangkok-Québec, il va y avoir une conférence de Wantani Siripantananantakul. Donc, suivi de performances d'artistes invités également qui vont être présentées le 11 mars dès 18h. Ces conférences qui vont précéder l'exposition de l'artiste présentée du 19 mars au 10 avril.
Oui, il faut dire que ça, l'échange Québec-Bangkok, on avait reçu en début de saison des artistes de Québec qui étaient allés à Bangkok, au Bangkok Art and Culture Center. Oui. Et puis, là, c'est le retour un peu du pendule. Là, on reçoit à ce moment-là ici autant au lieu, mais c'est un projet aussi qui va se répandre dans d'autres centres comme l'Œil de Poisson, Avatar, Vue et la Chambre Blanche qui avaient participé à l'échange aussi. Là.
Oui, donc beaucoup d'artistes de Québec qui s'étaient déplacés là-bas pour des expositions et des résidences. C'est la deuxième partie de cet événement-là, chapeauté par le lieu, je crois.
Exactement, c'est ça,
Inauguré par le lieu. Donc, durant le mois de mars, ces expositions-là vont avoir lieu à Québec dans tous les centres d'artistes
participants. Ils vont être dépaysés, nos amis Thaï.
Oui, nos amis Thaï vont être dépaysés. J'imagine que les artistes québécois ont dû vivre des expériences quand même assez intéressantes en se déplaçant dans des lieux aussi loin des nôtres.
Exact.
Donc, pour terminer la saison, Elvira Santa Maria va venir faire une conférence également au lieu le 21 avril, qui sera suivie d'ateliers et également de performances de fin d'atelier le 29 avril. Ensuite, Julie André T, qui sera en conférence le 5 mai, et l'artiste Kai King fera une conférence sur la performance en Chine le 19 mai. Et finalement, l'artiste Monty Kansin fera une série de conférences, ateliers et performances également pour la dernière partie du mois de mai.
Oui, exact. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'il nous réserve. C'était quand même un personnage assez intéressant, ce Monty Kansin. Bien, moi, je poursuis un peu. On s'est dit, on fait ça comme en procession. Peut-être faire un détour vers Méduse, hein, comme on le disait en début d'émission, va, à vrai dire, presque tout Méduse, pas tout, mais presque tout Méduse ouvre ce vendredi, donc dès 5 heures. C'est un vernissage commun qui est progressif, parce qu'à vrai dire, nos amis de Engram, Vu et également Manif d'art vont ouvrir à 17 heures, alors que l'œil de poisson, fidèle à son habitude, va fermer la soirée, donc c'est à partir de 20h à l'œil de poisson jusqu'à tard dans la nuit. La bande vidéo, c'est un petit peu plus tard qu'on va avoir le plaisir de voir de nouvelles expositions, donc à partir du 6 février seulement. Peut-être dire un petit mot, si on commence par la pointe. Donc, Engram, c'est Andriane Jacques qui va ouvrir la saison, donc avec l'exposition systématique. Ce sont principalement des gravures, dessins et séries graphie qu'elle va nous présenter, mais c'est donc des œuvres qui sont faites à partir de papier, de tissu, de tricot et d'infimes modulations, nous dit-on, et c'est beaucoup sur le motif répété qui va poser une réflexion, notamment sur la reproductibilité de l'image imprimée et cette espèce d'aspect de jeu à l'infini qu'on peut faire avec ce motif. Faut-il rappeler qu'Andriane Jacques avait gagné le prix Engram 2 années de suite, donc bien hâte de voir tout ça. Sinon, ce que Engram nous réserve pour les mois suivants, eh bien, il va y avoir une exposition d'estampes à la fin de février jusqu'au mois d'avril. Donc, les artistes sont toujours à confirmer. Par la suite, il va y avoir toujours l'exposition du fameux encan d'Engram qui a lieu à chaque année, là, depuis de nombreuses années maintenant, donc durant le mois d'avril. Et aussi, au mois de mai, il va y avoir un échange avec la Society of Scottish Artist qui sera présenté donc à partir du 7 mai. Et il y a une conférence, à vrai dire, elle était passée celle-là, excusez-moi, j'avais mal lu. Donc, vraiment très intéressant aussi chez Engram. Par la suite, chez Vue, on ouvre la saison avec Jonas St. Michael et Ellis Hoffman. Donc, des artistes, nous dit-on, qui ont un univers photographique qui joue beaucoup avec l'ambiguïté c'est beaucoup également aussi l'absence de détails qui va nous questionner, notamment aussi par rapport à leur approche. Notamment chez Jonas St. Michael, c'est souvent des lieux et des mises en scène qui sont données à voir dans ses photographies, mais qui posent une réflexion sur les espaces que l'on habite, mais aussi ceux qui nous habitent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que ces images-là apparaissent aussi comme des espaces psychologiques. Donc, c'est des lieux physiques, mais qui sont également des lieux psychologiques aussi très forts. Donc, on va être dans l'impression d'immobilité, de temps d'arrêt également aussi. Alors que chez Ellis Hoffman, on est plutôt dans les états transitoires, donc qui se manifestent à l'intérieur des images de cet artiste-là. C'est un travail sur la fragilité, l'impermanence des images, une réflexion donc sur la vie des gens, mais aussi sur les choses et les phénomènes, donc par rapport à leur longévité et leur éphémérité. Donc, tout ça, c'est chez Vue à compter du 8 janvier. Mais sinon, au cours de la saison, on aura notamment le plaisir de voir le travail de Patrick Beaulieu, Nadège Grimmeyer-Fortin, ainsi qu'également, il participe à l'échange Québec-Bangkok. Mais au mois de mai, notamment, on va voir le travail de Jocelyn Robert, que moi, ça fait un petit moment que j'avais pas eu l'opportunité de voir.
Oui, très hâte de voir le travail de Jocelyn.
Exact, c'est ça, dans ce contexte-là. Et aussi Caroline Cloutier, qui sera en même temps que lui. Sinon, à l'œil de poisson, on a pour ouvrir la saison Gino Quentin et Maxime Bruno. Gino Quentin, une figure connue ici à Québec.
Lui aussi, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu son
oui,
travail.
Oui, c'était le dernier solo.
À Québec.
Oui, c'était chez Regard, son dernier travail qu'il avait présenté, puis il avait d'ailleurs été en nomination pour un prix Vidéré à cette époque. Mais je pense que ça fait déjà un bon 2-3 ans là, de
quelques
ça. Donc, quand même. Et sinon, Maxime Bruno, une figure qu'on ne connaît pas, mais qui vient de Montréal. Je vous dirais que le mix ensemble il va être très intéressant à voir parce qu'ils ont de belles similarités là, par rapport à tous deux travaillent la sculpture. Donc, il va y avoir de belles connexions à faire. Les univers aussi assez éclatés et oniriques, si je peux dire, qui vont nous faire un peu du bien, justement, dans la froideur de ce mois de janvier.
Oui.
Sinon, aussi, on va voir au mois de février Carl Bouchard et Maude Bernier-Chabot, Carl Bouchard, que ça fait aussi un bon moment, donc qui vient du Saguenay, qu'on n'a pas vu aussi.
Et Maude Bernier-Chabot qui expose pour la première fois à Québec, je crois.
Oui, je pense aussi également que c'est sa première venue à Québec. L'œil également qui fait aussi partie de l'échange Québec-Bangkok qui recevra deux artistes thaï. Et également, dans la petite galerie, Valérie Perron, on s'en reparlera parce que c'est quand même une exposition particulière. Vous comprendrez lorsqu'on s'en rejasera au cours du mois de mars. Sinon, pour clôturer la saison, c'est Nicolas Fleming et Mike Borshed qui sera l'artiste en résidence à l'œil de poisson, donc un artiste originaire du Luxembourg, mais qui vit également à Vancouver, qui fait de la performance. Donc, ça va être intéressant de voir cette proposition-là, installation performative, nous dit-on. Alors voilà, et puis, ben, comme je disais, la bande vidéo, il faut juste se rappeler que ça commence donc le 6 février, donc le mois prochain, mais ce sont tous des artistes qui vont avoir fait une résidence à la bande vidéo avant d'exposer dans l'espace. On va avoir en premier lieu Ivanov Stoeva, qui est un duo ici, donc composé un duo bulgare, donc de Sonia Stoeva et Dimon Ivanov, donc Montréalais d'adoption, dit-on également aussi, mais originaire, donc de Bulgarie. C'est eux qu'on va avoir le plaisir de voir au tout départ. Et il va y avoir également Cynthia Nagar au mois de mars et Alexandre Larose au mois de avril jusqu'à juin et plusieurs artistes en résidence à ce moment-là. Donc, ça fait un peu le tour de la Méduse en ce qui a trait aux arts visuels et Avatar, c'est à suivre. C'est toujours une programmation qui est en développement. On aura le plaisir d'y revenir.
La Manif d'art également.
Ah, Manif d'art, oui, effectivement. Merci de me rappeler
dans sa vitrine vendredi.
Oui, Manif d'art.
Pas passer à côté de la Manif.
Oui, c'est ça. C'est Sarah Leroux qu'on entend déjà depuis avant les fêtes. Donc, c'était les prémices donc qu'on avait entendues. Mais la version finale sera de cette œuvre interactive. Va être dévoilé vendredi lors du vernissage commun à partir de 17h. Donc, buena suerte, good luck, bonne chance est une installation donc sonore et électronique qui puise dans l'extraordinaire imagerie de la loterie.
Loterie, ouais. Intriguant.
Oui, l'image est quand même assez intéressante aussi. Un petit canard, là, Golden Eggs. En tout cas, bien de voir ça. Alors, ça vaut la peine de faire le détour vers Méduse ce vendredi dès 17h.
D'y passer une belle soirée.
Oui. On va aller faire une courte pause musicale. On va aller écouter cette fois-ci Contra Luces. Alors, on poursuit notre survol de cette rentrée culturelle. On passe maintenant, Gentiane, avec Materia. Qu'est-ce qui nous attend à Materia cette fois-ci?
Donc, après l'exposition de Stéphane Pont qui se terminera à la fin du mois de janvier, il va y avoir une exposition intitulée « Objets ». L'objet, donc une exposition de Jenny Paquette qui est finissante de la Maison des métiers d'art en 2012. Donc, elle présente des œuvres installatives qui allient la céramique avec d'autres matériaux. Donc, une pratique qu'elle annonce un peu à la frontière entre les arts visuels et les métiers d'art. Donc, des installations d'objets céramiques de fabrication artisanale qu'elle produit en série, donc qui nous permet de nous questionner, de questionner le rapport à l'objet. Par la suite, dès le 8 avril, une exposition sous le commissariat de Nathalie Racicot, Récréation, la matière en jeu. Donc, Nathalie Racicot, qui avait déjà présenté une exposition intitulée « Mutation, matière, son, instrument de musique innovant », présente cette fois-ci un corpus d'œuvres de métiers d'art qui est inspiré du jeu. Donc, qui va réunir des œuvres ludiques ou interactives, donc, dans une exposition intitulée, comme je disais, « Récréation, la matière en jeu ». Et pour la dernière plage d'exposition au mois de juin, ce va être les finissants des techniques de métiers d'art, options céramique, textile et sculpture qui vont présenter leur œuvre finale de cours.
Oui, on a toujours l'opportunité de voir ça en fin de saison. Comme
souvent
ça,
des c'est... belles découvertes.
Oui, exactement, c'est ça. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui sort des écoles, puis voir un peu la créativité de ces jeunes finissants.
Oui.
Alors, moi, je poursuis avec la Galerie des arts visuels rapidement. Donc, dire que c'est ce vendredi, mais vendredi prochain, donc le 14 janvier, que la saison va s'ouvrir là-bas avec le fameux banc d'essai qui revient depuis plusieurs années déjà. Donc, une exposition d'étudiants de deuxième année au baccalauréat en arts visuels. Donc, des figures prometteuses qu'il faut suivre justement dans les années suivantes. Donc, c'est cette année Rosalie Gamache, Angela Eve Marsh, ainsi que Florence Morissette et Andréanne Perron, qu'on aura le plaisir de voir donc du 14 janvier au 7 février. Sinon, par la suite, la Galerie des arts visuels va participer aussi au Mois multi. Il y a plusieurs des organismes qu'on a mentionnés qui participent au Mois multi, mais on vous garde quand même la surprise parce que c'est la semaine prochaine qu'on saura tout du restant de la programmation du Mois multi. Et puis sinon, au mois de mars, la Galerie des arts visuels va nous proposer Marie-Christiane Mathieu, donc Musique de char, toujours plus à l'ouest, un projet qui, justement, s'est fait à partir de voyages en voiture avec une composante là assez intéressante là qui enfin je pense capte certaines ondes quand il se déplace sur la route. Donc un projet qu'on aura justement le plaisir certainement de reparler au cours de
en tout cas ça attise la curiosité.
Oui, exactement. Et puis pour finir la saison, c'est Olivier Hébert avec une exposition qui s'appelle Ghost. Et il y aura comme toujours aussi avec la Galerie des arts visuels de très belles conférences à venir, notamment le 21 janvier Adrienne Blackwell qui présente Furnishing Positions. Et aussi Patrice Loubier, qui était censé avoir lieu cet automne, qui a été reporté. Donc, caché, embusqué, survenir, pourquoi un art furtif? Donc, à suivre, mais vraiment à aller voir. Donc, ça, c'est le 4 février. Alors, voilà. Sinon, à part de ça, Gentiane, à la Chambre blanche, je pense qu'il y a quelques petites choses.
Oui, à la Chambre blanche, il y a Camille Nadeau qui va venir présenter le résultat de son projet de maîtrise du 14 au 17 janvier dans les espaces de la Chambre blanche. En résidence in situ, on va retrouver Sonia Pachot-Rochia, donc une artiste semi-montréalaise, je crois, artiste audio et musicienne improvisatrice qui s'amuse à faire de la musique avec des objets dans le cadre de l'échange Québec-Bangkok. Il va y avoir l'exposition Super de Jetsada Tangtrakulwang. Et finalement, en fin de saison, en résidence de recherche, Guillaume Adjudor-Provost va venir faire un tour en ville du 14 mars au 25 avril. Donc, faire une résidence de recherche à la Chambre Blanche. Donc, on est bien curieux de voir qu'est-ce qui va sortir de cette résidence.
Exact. Puis, il y a souvent des conférences là, suite à ça pour qu'on puisse en entendre un peu plus de ce qui s'est passé. Sinon, la Galerie 3, hein, galerie qui a ouvert qui a presque un an là, prochainement, au mois de février, qui va fêter son premier anniversaire, eh bien, on rouvre la saison avec un collectif donc d'artistes de la galerie qui sera présenté au mois de février. Sinon, au mois de mars, on va voir le travail de Martin Bureau qui sera présenté. Au mois d'avril, ça va être Mathieu Valade. Au mois de mai, Doyon Rivet, hein, que ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas vu en exposition, si vous voulez, en galerie. Oui. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et aussi, me dit-on, mon informateur à la Galerie Toi me dit qu'il y aura aussi une petite nouvelle à venir. Dernièrement, un nouvel artiste qui sera représenté par la galerie, mais je n'en dis pas plus parce que j'en ai déjà dit un peu trop. Mais enfin, voilà, une belle saison à venir aussi à la Galerie Toi qu'il faut aller faire un petit détour par là. Très rapide.
Tout simplement pour mentionner qu'à Regard, Ludovic Bonnet, qu'on a reçu ici à l'émission pour la spéciale art public, fera une expo avec Shani Tomassini dès le 6 février et Alison Moore, dans le cadre du mois multi, va également exposer là, dans cette plage d'exposition-là. Donc, c'est ce qui nous attend pour le moment de l'autre côté du fleuve.
Exact. Et dernière exposition à signaler au Musée national des beaux-arts du Québec. À partir du 4 février, il y aura Raphaël de Groot, Rencontre au sommet. Donc, qui est un projet à long terme, là, le poids des objets dont on avait vu il y a déjà quelques années au lieu, le balbutiement, si on peut dire, des débuts, où elle demandait à des gens d'apporter des objets, de cumuler tout ça. Eh bien, au fil des années, par la suite, elle a continué ce projet-là qui a pris de l'expansion, ma foi, qui sera présentée un peu dans une version plus fignolée, donc au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça va valoir la peine d'aller faire un tour, donc du 4 février au 17 avril. Mais on vous a sorti beaucoup de dates, mais tout ça est disponible sur notre page web. Exactement, il faut aller voir ça. Donc, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. On fait une courte pause et on vous revient avec Julien Saint-Georges. On va parler de l'exposition de Stephen Pohn à Materia.
Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio.
Vous écoutez CKRL
89.1.
Nous sommes de retour pour la deuxième moitié de l'aérospatiale, ce magazine, le seul magazine radio qui s'intéresse aux arts visuels.
Je pense bien.
Oui, c'est le seul, je vous le dis. Donc, Julien, tu es allé voir pour nous cette exposition Homopolis de l'artiste Stephen Pohn qui est présentée à Materia depuis avant les fêtes, là,
oui,
ici, puis qui va se terminer, à vrai dire, le 31 janvier. Donc, voilà. Parle-nous un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as découvert de cet artiste?
Premièrement, je connaissais pas Stephen Pohn avant d'y aller. J'ai eu un très beau coup de cœur sur l'exposition. Les métiers d'art, admettons, c'est peut-être pas non plus les expositions qui peut-être qui attirent le plus, ou en tout cas qui sont le plus qu'on le voit le plus souvent.
Il n'y a pas beaucoup de publicité en tant que telle aussi, hein. Puis quand on passe métier d'art, on est beaucoup encore dans les peut-être dans les idées préconçues de ce qu'on pense. Fait qu'on a des belles surprises quand on va à l'atelier, je pense.
Pour vrai, je pense que c'est une exposition qui vaut beaucoup la peine pour voir, notamment, ben, c'est du verre soufflé. C'est un verrier, dans le fond, un artiste du verre. Mais c'est pas juste du verre soufflé, justement. C'est aussi beaucoup de verre moulé, en fait. Verre moulé, ça va beaucoup plus se rapprocher dans le fond, de couler des bronzes, dans le fond. Mm-hmm. Donc, c'est à la cire perdue. Donc, un moule en négatif ou en positif qui va finalement créer principalement les statuettes, donc les hommes qu'on va voir... de cette homopolis, dans le fond, c'est ça, c'est une cité, la cité des hommes.
OK.
C'est un peu, ça se rapproche beaucoup autour d'une... Il y a une grande, grande symbolique autour de son travail, donc qui se fait depuis qu'il est sorti en 2000 de l'école de verre, dans le fond. Il est vraiment dans cette idée-là de créer quasiment une civilisation à travers ses projets.
C'est
tout un univers, hein, un peu science-fiction.
Exactement. Très,
mais à la fois primitiviste.
Ben, c'est ça. C'est l'impression que j'ai eue en sortant de là. C'était vraiment de voir une expo où quasiment on ressassait des éléments très ethnologiques, peu aussi.
Anthropologiques,
avec des masques. Ouais. Puis c'était intéressant.
Des instruments, lances.
Mais puisque c'est fait en verre, t'as l'impression, comme tu dis, que c'est futuriste. T'sais, c'est transparent. Mm-hmm. T'sais, ça a l'air fragile, mais dur en même temps. Fait que comme vraiment, moi, je trouvais que le contraste était là, saisissait. Dès que tu rentres, tu fais OK, là, tu sais pas trop où est-ce que t'es. Il y a comme un mélange des genres, en tout cas, des gros contrastes autant symboliques que dans la matière. Je trouve que c'est ça que ça.
Oui,
ça va bien ensemble.
Le côté très, très lisse du verre soufflé avec le côté beaucoup plus rugueux, mais le verre moulé qui est un peu. Ça ressemble à de la glace.
Oui, c'est ça, c'est givré un petit peu. Mm-hmm. Puis on a l'impression que des fois, le verre, dans le fond, moulé, c'est juste pour les hommes. T'sais, puis le verre soufflé, c'est ça, c'est pour les vaisseaux, les outils et tout. Puis on dirait que les hommes sont pas complètement formés. C'est quelque chose encore, tu sais, en évolution, genre un petit peu.
Oui, quelque chose d'un peu rough, là, en bon français.
Ouais, ouais. Oh, ouais.
Mais en fait, c'est ça, c'est de la sculpture de cire. L'artiste sculpte la cire, ensuite il fabrique un moule de plâtre et ensuite il moule donc le travail de la cire donne ce côté un peu rough, là.
Brut.
Merci. Vraiment,
c'est ça.
Je cherche le mot en essayant de le dire. Donc, ce côté un peu brut, non fini, processus, là. Ils sont comme en processus de formation, mais ils se ressemblent tous, hein.
Il y a ça. Ben, c'est des petits personnages dans des situations différentes, mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des personnages, en fait, c'est peut-être une observation étrange, mais asexués.
Ouais,
on ne sait pas si c'est des hommes ou des. Enfin, hommes-femmes, mais il n'y a pas tant de signes, mais
non,
ils se ressemblent tous aussi.
Ah oui, ben, il parle, comme il a commencé comme un voyage un peu plus individuel d'introspection, mais là, on est vraiment plus dans le collectif.
Mm-hmm.
C'est quasiment comme, mais un collectif, on dirait qu'on est une seule personne.
C'est ça.
C'est qui est un peu intéressant.
Oui,
là, en tout cas,
collectif, mais en même temps, on ressent pas vraiment de communication entre ces personnages-là.
Non.
Ils restent quand même dans leur monde un peu introspectif.
Ouais.
Ils s'appuient les uns sur les autres, s'assoient les uns sur les autres, se touchent parfois.
Il y a des combats et comme des frictions.
Oui,
on
sent qu'il n'y a pas tant d'entraide que de ces personnages qui essaient de se frayer un chemin parmi les autres.
Exactement, de se rendre à la terre promise, là, qu'est Homopolis, en tout cas pour l'expo, là, mais c'est expo rétrospective un petit peu quand même.
Mais c'était
projets...
des pièces récentes, plus particulièrement. Il y avait
2003.
Quelques, oui, c'est ça, il y avait peut-être quelques pièces, là, 4-5 pièces plus anciennes, mais on disait que c'était principalement des pièces récentes. Mais je pense aussi ce qui surprend, justement, si on revient sur l'aspect un peu anthropologique ou civilisation que l'artiste aurait été observé, en quelque sorte, c'est aussi, comme tu dis, le contraste de la matière, parce que on s'attendrait peut-être que ces artefacts qu'on pourrait croire artefacts soient faits, par exemple, de bois ou de métal, Montréal, par exemple, ou d'os. Hein, des fois, on pense aux Amérindiens avec aux Inuits qui sculptent dans des bois de caribous, mm-hmm. des choses comme ça, mais ou de baleines. Mais là, on est vraiment. Il y a ça aussi qui est intéressant.
C'est pas
là.
Une matière naturelle, c'est une matière transformée. Ouais. C'est ça qui mélange, tu sais plus où est-ce que t'es. Tu cherches, on dirait, puis il y a toujours des références. Une des œuvres, c'est l'Odyssée. T'sais, comme tu peux faire vraiment une référence à Homère, admettons, de son récit. Mais il y a aussi, il y en avait une très intéressante. Elle s'appelle Nao Slash. Une Slash Icar, dans le fond. Fait que, oui. Puis Nao, c'est un petit
avec
robot.
Avec la feuille d'or. Hein?
Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a le Icar, admettons, qui est sur le sommet de l'œuvre. Mais le Nao, je savais pas c'était quoi. Je suis allé vérifier, puis c'est un petit robot. En tout cas, ça m'a amené à un petit robot d'une compagnie française. Puis c'est vraiment écrit de la même manière, N-A-O, majuscule. Fait que, en tout cas, tu sens que, justement, l'idée qu'on disait anthropologique et futuristique en même temps, on dirait que...
Oui, une espèce de monde post-apocalyptique où l'être humain devrait revenir à ses racines pour survivre.
On dirait bien, tu sais. Puis comme se réadapter, puis transformer une technologie naturelle ou en tout cas, tu sais, mystique ou primitive. Là. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'exposition.
Moi, j'ai été surprise par la taille aussi des œuvres, hein? Surtout le grand radeau à l'entrée.
C'est
ça. Là, je me souviens plus du titre, mais vraiment, moi, ça m'a fasciné de voir aussi les capacités du matériau, de voir jusqu'où ça pouvait se travailler en quelque sorte.
Oui, vraiment, d'une fragilité aussi. C'est ça, tu sais, comme quand c'est gros comme ça, tu as l'impression que c'est tout fragile, mais finalement, en tout cas, il y a toujours le côté un peu brut qui reste, même avec la fragilité. C'est intéressant de voir que autant la symbolique, tu sais, du futur puis de l'anthropologique est dans la symbolique, mais la matière, tu sais, supporte le plus onirique, tu sais, ou la métaphore, admettons. Il y a vraiment comme un lien entre les deux.
Ah, c'est vraiment intéressant parce que moi, je l'avais pas perçu du tout. Le côté futuriste, je l'avais pas perçu, mais là, en parlant, je trouve qu'effectivement,
on le voit plus,
exact.
Oui. Oui, on retrouve vraiment l'univers des films de science-fiction, les trois prophètes, donc des personnages comme ça qu'on pourrait retrouver justement dans ce type de film de science-fiction avec des mythologies inventées à partir des mythologies existantes.
Ça me faisait penser à Mad Max un petit peu.
OK.
Au vrai, là, comme justement, c'est une espèce de mélange, comme tu dis, le hybride entre des vieilles histoires, mais finalement qui se transforment, puis tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, admettons. Puis il y avait même une des œuvres que c'est vraiment un vaisseau. T'sais, la personne est comme est dans un globe, là, c'est proche, si vous y allez, là, c'est proche de l'accueil. À droite, dans le fond, c'est vraiment comme un espèce de... quasiment un spermatozoïde.
Oui, un gros
aussi,
spermatozoïde une tête très, très lisse. Là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment comme... tu vois, il y a vraiment un personnage à l'intérieur qui le conduit. Ça fait qu'il y a comme... En tout cas, c'est une belle civilisation un peu étrange qui est en train de... qui nous crée depuis vraiment... depuis longtemps, M. Pond.
Et puis, c'est un artiste que j'ai lu rapidement, qui est quand même prolifique, là, qui a une belle carrière à l'international aussi.
Ah ouais, vraiment. Il est représenté à New York. Il a fait les biennales aussi. Il me semble, je ne sais pas exactement l'année, mais il a fait une biennale en Corée aussi, qui est la plus grande biennale. Là,
en 2009, ici. C'est là, en 2009. J'ai la date, là, ici. Biennale internationale des métiers d'art de Cheongzhou.
Mais pareil, c'est ça. C'est comme la. Mais c'est ça, hein. On la connaît pas, cette biennale-là, nécessairement. Mm-hmm. Mais ça a l'air d'être la plus grande dans les métiers d'art, en tout cas.
Oui. En tout cas, merci beaucoup, Julien, d'avoir été la voir pour nous et puis de nous avoir partagé cette découverte que tu as fait là-bas. Mm-hmm. On aura le plaisir certainement de te réentendre cette année, j'espère.
Oh, c'est certain.
Super. Alors, on va aller faire une courte pause musicale. Cette fois-ci, on s'en va écouter Curvas Espacio-Temporales.
apparition de scorpions et roches. La plus de la rotation de la solité de son ligne était sur le plan pour les coups. Le nom de la piscine est une petite télé, et la piscine n'a pas de la tête de l'air. Le gars est plus grave à la mienne à votre vote. Je peux vous dire une pratique comme de l'époque. Le gars est de l'une à la tête à l'une chose à ce niveau de la vie. Le sac de l'une, le mot bien, la matinée, la vie, la vie, la vie, la vie, y me resta entonces a su preparatoria en el Instituto Nacional. Esto marca definitivamente su rigor académico, su pasión por la lectura. En algún momento, en clases con su profesor Antonio Escarneta, coquetea hasta con la idea de ser escritor y un gran sentido de deber patrio. El primer foco de luz de la nación, me gustaba recordar con frecuencia. La pasión por la lectura y los libros no lo dejaría nunca, manteniéndolo unidos, sino torres de libros en su velado, escritorio, etc. Generando no pocos conflictos con mi madre, quien veía que la casa se convertía día a día en una caótica biblioteca. Pero eso también amor a la ciencia y al ritmo racionalista lo inclina finalmente hacia medicina, carrera que comienza en la Universidad Católica en medio de los grandes cambios y transformaciones sociales de Chile y el mundo en ese explosivo 1968. Participa como novato en la primera toma universitaria en Chile y se impregna de todo un ideario, de un discurso y un espíritu que, creo, no lo abandonó hasta el último de sus días. Esto, junto al profundo espíritu republicano y religioso, salvando las aparentes contradicciones, entregado por su madre, le abren cada vez más los ojos y el corazón hacia esa visión social, humanista y, ¿por qué no decirlo?, revolucionaria.
Dernier segment de l'émission et je suis toujours en compagnie de Jean-Tiane Lafrance et bien sûr de Julien qui est resté, Saint-Georges qui est resté avec nous pour cette portion d'émission. Mm-hmm. Donc Jean-Tiane, tu es allé voir l'exposition Mutation, les métiers d'art au Québec depuis 1930, donc comme on disait, qui était présentée au Musée de l'Amérique francophone et ce depuis le 25 novembre.
Oui, donc une exposition qui est présentée en collaboration au Musée de l'Amérique francophone et au Musée
des maîtres et artisans.
Maîtres et artisans qui est situé à Montréal. Donc, j'ai vu qu'une seule partie de l'exposition. Une exposition qui est consacrée aux métiers d'art au Québec depuis 1930. Donc, on s'entend qu'on a une très, très grande diversité de pratiques. Ouais. Donc, un très grand défi pour le commissaire de regrouper toutes ces différentes pratiques, ces différents matériaux en une seule exposition qui se veut cohérente.
Mais je pense que le but aussi était un peu de dépoussiérer ces idées-là préconçues de des métiers d'art.
C'est exact. Donc, on peut voir différents objets, différentes œuvres qui s'y côtoient de façon très audacieuse, en fait. Mmh, okay. Le fil conducteur, si on veut, de l'exposition, c'est donc de penser les métiers d'art sur un continuum, si on veut, sur deux continuums, donc deux axes. L'approche artisanale, l'approche industrielle, l'approche environnementale et l'approche artistique. Donc, il y a quatre zones colorées avec des panneaux explicatifs et des objets qui sont regroupés. Et donc, on nous avertit dès le début que ce n'est pas des cases dans lesquelles on enferme les objets, que les objets peuvent se retrouver.
C'est pour faciliter la compréhension plutôt du corpus.
Exactement, pour faciliter la compréhension du corpus. Et puis, donc, on commence avec l'approche artisanale. Donc, on va retrouver, par exemple, dans la première vitrine, des objets aussi diversifiés qu'un violon, des broches pour les cheveux, une voiturette abstraite en bois, un pêcheur de facture très naïve. Donc, on a vraiment les broches sont très artistiques, très esthétiques. Mm-hmm. Donc, on a vraiment des objets très, très diversifié, usuel, mais très diversifié aussi, qui se côtoie. Et dans la vitrine tout à côté, on a donc des sculptures de bois des frères Bourgault.
Ouais.
Donc on n'a pas un fil conducteur dans les objets, mais vraiment plus dans les regroupements qui sont assez lâches, assez
qui permettent d'inclure beaucoup d'objets qui sont assez rassembleurs.
Oui, voilà, oui, c'est exact. Donc ensuite on a de l'émail sur cuivre, on a du travail de grès, du textile, et puis du travail de métal. Donc dans cette partie-là artisanale, ce ne sont pas seulement que des objets des années 30, mais il y a des objets qui sont plus anciens, des objets très actuels qui se côtoient aussi.
Mm-hmm. Ah, c'est bon ça, faire des ponts au moins, tu sais, de voir que justement il y a des liens avec ce qui se fait en ce moment et ce qui s'est fait déjà.
Oui. Donc on va avoir de la joaillerie, de la ferronnerie, de la coutellerie. On a comme beaucoup de différentes pratiques.
Moi je connais le coutelier couteau de vin ici à Québec, et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est le genre de choses qu'on penserait pas nécessairement voir quand on pense métier d'art. Tu sais, quand je dis qu'on a déjà ces idées préconçues là, vraiment c'est super intéressant parce que ce sont de très beaux couteaux qui sont pratiques, là, mm-hmm. qu'on peut utiliser pour de vrai, mais qui sont très artistiques aussi.
Il y a une réflexion esthétique, j'imagine, tout de même, tu sais, dans l'objet. C'est pas juste pour comme être, en tout cas.
Il n'est pas juste usuel, effectivement, tout est réfléchi aussi sur si on peut dire, l'usage aussi du manche. Mm-hmm. Les matériaux qui sont là, ce sont des très beaux matériaux également aussi. Puis je sais que plusieurs chefs à Québec ont des couteaux de cet artiste-là.
Bien populaire.
Donc, très bons et très beaux couteaux. Mm-hmm. Donc, des couteaux... donc, c'est l'unicité aussi de le travail de métier d'art. C'est que chaque objet est unique. Donc cette approche artisanale donc montre des éléments uniques. Et puis, l'autre zone qui côtoie la zone approche artisanale, c'est la zone approche industrielle. Donc, la production en série donc dans laquelle on introduit les céramiques de Beauce. Donc, les céramiques de Beauce qui ont été une industrie très prolifique en Beauce de céramique et qui ont été supplantées par l'arrivée des produits chinois. Mais on a cette idée-là des céramique de Beauce, de vaisselle aux teintes brunes, beige. Mm-hmm. Mais il y avait également donc des designers qui étaient engagés pour faire des collections. Donc chose que je ne savais pas. Moi j'avais comme une idée vraiment très poussiéreuse, Emmaüs des céramiques de Beauce, mais des objets très très élégants et très audacieux.
Okay. Ah, quand même, oui.
Donc, des
tasses. On monte à Jacques aussi en même temps.
Donc, des tasses, théières,
avec des formes un peu non habituelles.
Des formes non habituelles, donc...
Plus modernistes un peu, là.
Oui. Donc c'est une collection qui était designée par Doug Funk, qui est un designer ontarien, et ensuite modelée par l'industrie. Donc dans cette section sur la production en série, on a également le travail du métal, mais également le travail du verre. Donc on a une vitrine qui est consacrée au verre. Donc il y a quand même des regroupements thématiques un peu autour des matériaux, moins que des pratiques. Donc il y a différentes pratiques de métal ou différentes pratiques de verre. Mm-hmm. Ensuite, la troisième zone, c'est sur l'approche environnementale. Donc une zone où on parle beaucoup de toute l'importance de l'école du meuble dans les métiers d'art au Québec.
Design intérieur.
Donc on a beaucoup de meubles qui sont exposés. Donc on a une section où on a toute une collection de meubles art déco, des meubles des années 50 qui sont exposés dans un coin. Et face à ça, on a quelques œuvres des de la modernité québécoise, donc des signataires du Refus Global ou de Prisme Dieu, oui, qui ont fait des œuvres parfois un peu plus utilitaires, donc une lampe de Mousseau, un vitrail de Marcel Ferron,
oui,
donc des très 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 belles pièces. Et c'est intéressant parce que cette partie-là qui se trouve dans l'approche plus environnementale, décoration, annonce quand même la dernière partie qui est une zone qui est plus sur l'approche artistique.
Mm-hmm. Okay,
ouais.
Donc là, là on change complètement de registre. On a des œuvres de facture beaucoup plus artistiques. Donc
on est à la limite justement du métier d'art et des arts visuels en quelque sorte.
Oui, exactement. Ouais. Donc du métier d'art de recherche. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que les panneaux explicatifs dans cette section là vont justement expliquer un peu le statut d'artiste. Mm-hmm. Lorsque les artisans de métier d'art ont pu avoir accès au statut d'artiste et comment les artisans de métiers d'art doivent encore se battre pour pouvoir être financés pour faire de la recherche.
Mais oui, c'est ça. Mais ça se prête tout à fait. Hein, parce que c'est comme encore tout à fait d'actualité. Là. C'est pas dans les années 30. Encore en ce moment. Là.
Oui, exactement. Donc, on est vraiment dans des questionnements un peu plus, plus actuels. Donc, une exposition qui prend position aussi. Donc, on a une très belle œuvre de Micheline Beauchemin, donc du textile, fil de métal, donc une artiste très intéressante. Et à la toute fin, une œuvre de Ito Laila Lefrançois qui s'appelle Caler le caribou, qui est carrément une sculpture, mais une sculpture qui est faite de verre soufflé, de métal sculpté,
très beau.
Donc une espèce de personnage féminin, les jambes ouvertes avec des
éléments de verre,
des éléments de verre tentaculaires qui sortent de son entrejambe, donc très très onirique, mais en même temps des matériaux qui proviennent du milieu des métiers d'art. Donc, on est vraiment à la frontière entre les arts visuels, les métiers d'art. Donc, une exposition à voir qui nous permet de poser un regard très différent sur les pratiques en métiers d'art au Québec.
Ah ben, c'est très intéressant. Donc, et en plus, je pense qu'on a encore amplement le temps parce que moi, j'ai même pas arrivé à trouver la date de fin de cette exposition-là. Okay. C'était même pas indiqué sur le site, mais on a encore le temps. Mais ça vaut la peine d'aller faire un détour au Musée de l'Amérique francophone.
Je me demandais juste rapidement, est-ce que l'expo qu'on voit, mettons, à l'Amérique, au Musée de l'Amérique francophone, c'est la même que celle qui est à Montréal?
Non, c'est deux expositions différentes, mais l'exposition de Montréal, je crois qu'elle se termine la semaine prochaine.
OK.
Oui.
Ah, d'accord.
Parfait. Ben merci beaucoup, Jean-Tiane, d'avoir été voir tout ça pour nous. Et nous, c'est presque la fin. C'est le temps de conclure cette émission et de vous rappeler les quelques événements de la semaine. À vrai dire, bien sûr, on en a amplement parlé en début d'émission, mais vous rappeler que c'est le vernissage comme un progressif à Méduse, à la fois chez Engram, Vue, L'œil de poisson et Manif d'art. Donc, ce vendredi 8 janvier dès 17h et ce, jusqu'à tard dans la nuit pour L'œil de poisson. Et sinon, vous rappelez que c'est la dernière fin de semaine, la dernière semaine pour voir Cité Bidon de Karine Giboulot au Musée de la Civilisation, dont on a parlé avec Annie-Charlotte Thibodeau l'an dernier, donc à la mi-décembre. Donc, allez voir cette exposition vite, parce que ça se termine ce dimanche. Donc, je remercie, à vrai dire, ma collègue Jean-Tiane.
Ben, merci, Audrey.
Pour cette première émission. On va avoir le plaisir de t'entendre la semaine prochaine et les semaines suivantes. Merci, Julien, d'avoir été parmi nous.
Ça fait plaisir.
Merci à Simon Roy aussi pour sa sélection musicale et bien sûr, et comme toujours, Jacques Gignac à la mise en onde. Donc, on se dit à mardi prochain. Soyez des nôtres et je cède bien sûr le micro à mon ami Pierre Blais et son émission Situation critique. Bye-bye, à la semaine prochaine.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou.
lebaldulézard.com.
Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Combattez la morosité de l'hiver et offrez-vous l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Dès le 29 janvier, retrouvez Kit Kuna et son éblouissant spectacle Le Voyage d'hiver, la voix ensorcelante de Michael Bielinski dans un concert immersif, une rencontre scénique intimiste avec l'artiste américain Zachary Oberzan et un mystérieux théâtre d'ombre et de lumière pour toute la famille. Tout février, le mois multi propose 25 jours de festivités pour découvrir un programme d'œuvres éclectiques hors du commun. Intrigué? Détails au moismulti.org. Billets en vente sur lepointdevente.com.
À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la culture.
Les bouquins d'abord, les lundis 18h30 avec Barbel Rink. Les enfants du paradis, les lundis 17h30 avec Robert Boisclair. L'aérospatiale, les mardis 17h30 avec Audrey Caro et Gentilane La France. Situation critique, les mardis 18h30 avec Pierre Blais. Et La vie en BD, les vendredis 17h30 avec Raymond Poirier.
T'es musicien, chanteur, poète, slameur, conteur, humoriste, ou tu pratiques un art de la scène hybride et t'as envie de te faire connaître? Participe au concours Montre tes talents au sacrilège. Dès le 3 février, 15 participants performeront semaine après semaine les mercredis dans l'émission Jamais comme tout le monde. À gagner, une bourse de 500$, une campagne publicitaire d'une valeur de 1000$ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds au sacrilège. Inscription et détails sur ckrl.qc.ca. Date limite, 25 janvier. Ce concours est rendu possible grâce à CKRL, le bar Le Sacrilège et Boréal.
Cinéma qui n'était que du... Cinéma qui n'était que du...
Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
Mmh.